Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Ka Oha Nui, et bienvenue dans cette 22e émission.
Édition 2023.
Après avoir passé deux émissions sur la décennie 1800-1810, nous avons ensuite fait un retour sur 1804 et le séjour du russe Krusenstern à Nukuhiva. Nous avions vu que cette période de sécheresse et de famine avait aussi marqué le début de la razzia sur le santal marquisien, opérée par les étrangers et qui ne s'arrêtera qu'en 1825. Lorsque l'arbre majestueux et odorant aura disparu des îles. C'est à cette époque-là que le commodore américain David Porter va passer plusieurs mois à Taiohae, où il aborde, accompagné de 6 navires et près de 400 hommes. En raison de la richesse des détails que nous apprendrons des anciens Enana à travers lui, pas moins de 6 émissions nous seront nécessaires afin de profiter au mieux de son témoignage. Même si cela ne fait pas tout à fait partie de l'histoire des Marquises, voyons les raisons de son passage qui, lui, restera longtemps dans la mémoire des Enana. Le 28 octobre 1812, pendant la seconde guerre d'indépendance des USA contre la Grande-Bretagne, que nous avons déjà évoquée, le commodore Porter quitte l'état du Delaware sur la frégate Essex, armée de 32 canons. Il part à la chasse aux navires anglais. Le 6 octobre 1813, le commodore Porter quitte les Galapagos en direction des Marquises. Il est à la tête d'une escadre de 6 vaisseaux dont la frégate Essex qu'il commande, ainsi que les 319 hommes d'équipage. Avec lui, l'Essex Junior, nouveau nom du baleinier corsaire britannique Atlantique capturé en mai, et 4 autres baleiniers britanniques, le Georgiana, le Greenwich, le Seringapatam et le Sir Andrew Hammond, tous capturés récemment.
À cette époque-là, après la capture d'un navire ennemi, certains marins étaient libérés, mais d'autres étaient gardés prisonniers afin de participer aux manœuvres de leur navire. Après quoi,
les navires ont été armés et transformés en navires de guerre. Ils servent aussi de prison et d'entrepôt. Parmi les hommes du navire Essex, 6 membres d'équipage présentent des symptômes évidents de maladies vénériennes, de syphilis, remarqués à l'embarquement par le médecin du bord. Au moins 3 d'entre eux parviendront à Nukuhiva un an après. Ils ont joué là un rôle certain dans la contamination des Vehine Enan. Le 29 octobre, Porter est en vue de Hivaoa, au large de laquelle il aperçoit une multitude d'oiseaux paillant queue, de sternes et d'immenses troupes de cachalots qui se dirigent vers le nord. À l'attention de tous les équipages, il écrit une note recommandant à chacun d'être le plus amical possible avec les sauvages qu'ils vont rencontrer. Le troc ne sera autorisé que sous certaines conditions très réglementées. Si tous se comportent bien, ils seront autorisés à aller à terre. Le 23 octobre, Porter passe au large de l'îlot Fatu'uku et met en panne afin de permettre aux autres vaisseaux de le rejoindre. Le 24, Porter atteint Uahuka et passe au large de Hane. Une pirogue montée par 8 hommes s'approche prudemment et après hésitation des passagers vient se mettre sous la poupe du vaisseau où on leur descend dans des seaux, des couteaux, des hameçons et des morceaux de cerceaux de fer dont nous avons déjà parlé aussi au moment du passage de Krusenstern en 1804. Par le même moyen, les Enata renvoient du poisson et une ceinture de fibres de coco ornée de dents de cochon. Porter est frappé par leur tatouage intégral, leur nudité complète et la ligature de leur prépuce. De cela aussi, nous avons déjà parlé. À la vue des dents de cachalot exposées, ils promettent de revenir avec des fruits et des femmes afin d'acquérir ces trophées marins auxquels ils attribuent une valeur inestimable. D'autres pirogues s'approchent du navire, mais les occupants refusent de monter à bord. Très désireux d'acquérir de la nourriture, Porter décide de se diriger vers l'île avec 2 chaloupes. Les pirogues marquisiennes restent près du navire. Sur la plage de Hane, une foule d'hommes armés de lances et de houkastet les observe manœuvrer. aucune femme ni enfant avec eux. La chaloupe de porteur s'approche du rivage sans descendre à terre et quelques naturels s'aventurent jusqu'à lui avec des fruits et des ornements, dont des pectoraux recouverts de petites graines rouges contre lesquelles ils reçoivent des cerceaux de fer qui semblent les contenter. À la vue de cette scène, les indécis abandonnent leurs armes et se jettent à la mer. Porter teste les enanas pour 3 fruits de l'arbre à pain. Mais, que 3 hommes lui proposent, il donne seulement 2 hameçons afin de voir comment ils vont réagir. N'y trouvant pas son compte, un des 3 hommes reprend son mail et s'enfuit en riant. Quand un autre lui demande un de ses pistolets, Porter pointe l'arme dans sa direction et l'homme, croyant qu'on la lui offre, se jette dessus. Porter en déduit qu'ils n'ont jamais vu d'arme à feu.
Ce qui est peut-être possible sur Ouahuka, une île plus petite et moins fréquentée que Nukuhiva.
Plus tard dans la journée, Porter fait escale à Vaipae'e. Sur la plage, 50 de personnes avec femmes et enfants. Certains des hommes sont parés de plumes noires, de pectoraux de graines rouges et de capes en tapa. Ils portent des éventails blancs, des touffes de cheveux autour des poignets, de la ceinture et des chevilles, des ornements d'oreilles de couleur blanche et de forme ovale.
Ces ornements d'oreilles se nommaient ha'akai et n'étaient portés que par les chefs. Les hommes portent aussi
des colliers de coquillages et des dents de cachalot. Cette description est tout à fait conforme au portrait des chefs de Nukuhiva, exécuté 30 ans plus tard, en 1842, par le français Max Radiguet, qui accompagnait l'amiral du Petit Ouar. Les hommes attendent l'arrivée de leur chef pour se positionner. Porter écrit qu'il se nomme Teoua ou Teoua ou Teoua. Difficile d'en connaître la vraie prononciation quand le mot a été écrit par un Américain. Quand le chef arrive, il porte seulement du tapa autour de la ceinture et une couronne de feuilles de palmier sur la tête. Il autorise la population à rejoindre les chaloupes où chacun reçoit un petit cadeau. En échange, le chef demande à quelques jeunes filles de monter à bord. Elles sont vêtues d'un long tapa blanc passé par-dessus une épaule, laissant apercevoir un bras et un sein. C'est un vêtement dont elles doivent se défaire pour grimper dans les chaloupes, où les hommes leur jettent des mouchoirs dont elles cachent leur intimité. Là encore, cette description des femmes correspond exactement aux dessins et aux aquarelles de Radiguet.
La promptitude des femmes à recouvrir leur nudité fait ici écho à ce qu'on avait évoqué dans les émissions sur le tapu portant interdiction de montrer ses parties les plus intimes, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Après leur avoir distribué des cadeaux et leur en avoir remis un pour le chef, Porter rentre vers l'Essex. En chemin, il croise les pirogues restées au navire et à bord desquelles les visages sont souriants et radieux. Une fois sur la frégate, ses officiers lui apprennent que les insulaires sont finalement montés à bord et lui expliquent leur étonnement à la vue des moutons, des brebis, des chèvres, des chiens et autres animaux, dont des tortues géantes de Galapagos, autour desquelles les enanas s'étaient allongées pour mieux les admirer. Avant le coucher du soleil, Porter lève l'ancre et passe entre l'île et les îlots Heimeni et Teuaua, aussi appelés Motuman. Il aperçoit la vallée de Ha'ave et, une fois au large, met en panne avec toute sa flotte, puis au matin, prend la direction de Nukuhiva.
Yakati enana totato. Hawaii ki etama etama
oia tota tova anui. E tama, uhi ia e te tau pa io i. E tama, aua o e te ti e te ne tau e tuki. E tama, e tama, oia
Juste avant la chanson, nous avions quitté Porter le 24 octobre 1813, alors qu'il mettait les voiles vers Nukuhiva. Avant son arrivée, voyons un peu l'organisation des clans et tribus marquisiennes de l'époque,
les Ati Enam.
À cette époque-là, Kiatonui est le chef des Teii de Taiohae. Kikopune est aussi chef de Hoata. Tauataa est grand prêtre de Ha'avao et en est aussi le chef. Depuis que Muatitahi, l'ancien chef, en a été chassé pour avoir volé le poisson capturé par des enfants Kikino, qui revenaient de la pêche. En fait, Muatitahi est le frère aîné de Putahai'i, mère de Kiatonui. Après la mort de Moana, son père,
et premier chef de Me'au et Ho'ata,
il n'a pas pu lui succéder en raison de sa déficience mentale. Et le titre est revenu à Putahai'i, sa sœur, puis au fils de celle-ci, Kiatonui. Muatitahi, qui réside maintenant chez Kiatonui, est d'une si grande taille que Porter le surnommera éléphant. Les différentes tribus des Hapa'a, des vallées de Hakapa'a et de Hakapuva'e, sont dirigées par les chefs Moetei,
probablement Mawateii ou Teii Moeao dont nous avons déjà parlé, qui étaient secondés par
Pui'oho, Tekavanui, Kavatua et Toneotufa. Ces tribus-là excellent dans la culture du kava, et dans la cuisson du curcuma et kamoa.
Nous avons déjà parlé du privilège réservé au Hapa'a de Mu'ake de confectionner ce parfum d'exception.
La vallée de Ua'uka, anciennement nommée Haka'ua'uka, est dirigée par les chefs Potuna ou Poutuna, ainsi que Mahitatahi, qui règne sur les tribus Ma'amatua, Tai'oa et Kahe'e, alliés des Teii. Les Taipi de Vai'i sont dirigés par Tohenui et Puhikua, ceux de Ho'oumi par Timo Taipi, dont la sœur aînée, Hinatei Aki, appelée aussi Tehono Tutu Aki, avait épousé
Tuitoua,
quatrième enfant et premier fils de Kiatonui, avec lequel elle avait eu un fils, né en 1796, Paka Uotei'i, qui sera le père de Temoana. Les Atikea de Anaho sont dirigés par Tahiahao. Au terme de son séjour, Porter estimera à 19 200 le nombre total des guerriers sur Nukuhiva, soit une population de près de 80 000 personnes sur Nukuhiva. C'est beaucoup plus que ce que le pasteur Crook disait. Et voilà que le 25 octobre 1813, Porter arrive à Nukuhiva. Il passe entre Tikapo et le rocher Teohotekea, qui affleure à peine aujourd'hui et en servit de cible d'entraînement de tir à la marine nationale pendant l'entre-deux-guerres. Il entre dans la baie du contrôleur, dont le nom d'origine est Hangaha'a, puis il redescend vers l'entrée de la baie de Taiohae, dont il nomme Sentinelle les deux îlots qui en marquent l'entrée. Contrarié par les vents et les courants, il ne peut entrer dans la baie et jette l'ancre. C'est alors que des pirogues et une chaloupe quittent la côte. Cette dernière, la chaloupe, s'approche avec à son bord trois hommes blancs, dont un presque nu. Craignant que ces hommes ne soient des déserteurs ou des voleurs, Porter les renvoie, et les trois embarcations rentrent à Taiohae, où une foule les attend en armes sur la plage. Craignant de n'avoir pas réagi favorablement, Porter fait armer quatre chaloupes et part en direction du rivage, qui se vide alors de ses occupants. Quand il met pied à terre, un blanc vient au devant de lui. C'est l'aspirant de la marine des États-Unis, John Maury. Avec quelques hommes d'équipage, il est à Taiohae depuis plusieurs mois afin de réunir une cargaison de boîtes santal que le lieutenant Lewis, capitaine du Pennsylvania Packet, son navire, doit venir récupérer deux mois plus tard. Porter les prend à bord en attendant le retour de leur vaisseau qui ne reviendra jamais en raison de la guerre entre les USA et le Royaume-Uni et le blocus que font les Anglais de la Chine qui empêche tous les navires qui étaient dans le port de sortir.
C'est aussi à ce moment-là que Porter fait la connaissance de l'homme blanc à moitié nu qu'il avait vu auparavant dans l'embarcation près de son navire. Il s'appelle Wilson et c'est un beachcomber, un écumeur de grève anglais, qui va lui servir d'interprète tout au long de ce séjour, mais qui lui jouera aussi de bien mauvais tours.
Quand Porter débarque, les naturels sortent des bosquets et se montrent en grand nombre. Tous admirent les mouvements des soldats dont certains disent que ce sont des esprits, nous dit Porter. Le ricochet des balles de mousquet sur la mer les étonne aussi, mais ils se baissent à chaque volée, pourtant déchargés vers le large. Porter apprend alors que les Hapa'a de Hangapa'a ou Hakapa'a ne cessent de harceler la vallée depuis des semaines. Il leur fait alors envoyer un message leur signifiant d'arrêter leurs exactions, faute de quoi il leur enverra ses soldats. Il leur signale aussi qu'il est prêt à commercer avec eux s'ils se conforment à ses requêtes. Et il demande aux habitants de Taiohae de ranger leurs armes afin de ne pas être pris pour des ennemis. Entre-temps, conscients qu'ils ne courent plus aucun risque, les membres d'équipage venus sur les chaloupes se dispersent dans les maisons et les bosquets, suivant l'appel de la nature, sous la forme des belles et jolies jeunes filles aguichantes. Porter rencontre alors la petite fille de Kiatonui, Pa'etini, âgée de 18 ans, dont la beauté et la noblesse le frappent. Elle repousse ses avances avec froideur, pour se tourner vers un officier avec lequel, parmi d'autres, elle restera pendant le séjour des Américains. Il faut savoir que Porter est arrivé avec son jeune fils, David Junior, de 11 ans, et qu'il se doit d'afficher un comportement exemplaire de père. Néanmoins, nombreux sont les récits qui racontent sa liaison avec Pa'etini, dont les échos feront scandale jusqu'en Amérique. Pour le bon exemple, on peut dire que c'est râpé. Apprenant que le chef Kiatonui est dans le fortin de Mu'ake, dont nous aurons l'occasion de parler plus loin, il lui fait envoyer un messager afin de le rencontrer, puis il retourne au navire qu'il fait mouiller à la plage de Hakapehi. Il renvoie ensuite les chaloupes chercher des femmes qui attendent sur le rivage et passe la nuit à bord. Porter nous dit alors que le navire devient une vraie maison de fous. Le 26 octobre, Porter se rend à Hakau'i pour voir si l'endroit est plus adapté aux réparations qu'il doit faire effectuer sur sa frégate l'Essex. Et puis il revient à Taiohae. Chers amis, ne manquez pas la prochaine émission au cours de laquelle Porter rencontrera enfin Kiatonui et le chef de ses guerriers, le Toanui Mowin. Nous verrons aussi comment, en cette fin d'octobre 1813, les Hapa'a de Teuhitu, non contents de se moquer et de menacer les Teihi de Taiohae, les attaquent carrément malgré la présence des troupes de Porter. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com.
Et merci à Takanini pour sa chanson Etama Etama qui exhorte les jeunes marquisiens à ne pas rejeter le travail effectué par les ancêtres, ceux qui sont désormais au séjour des morts, Hawaiki. Elle les encourage à suivre le chemin qu'ils ont parsemé de leurs pouvoirs spirituels qui sont autant de cadeaux pour cette jeunesse.
Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail copo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt à Pai au Oahu.